Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
À présent, nous revenons dans le quotidien et dans le temps que nous vivons avec l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, on dit l'INSEE d'habitude.
Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole aux philosophes contemporains qui s'aventurent dans les dédales de la pensée. Pensée classique ou pari fou, philosophie première ou transdisciplinaire, notre seul but est de vous faire voyager encore et toujours sur les chemins de la connaissance. Et en cette année de campagne électorale, les 2 minutes papillon de Géraldine Mosna-Savoie que vous retrouvez à 10h50 du lundi au jeudi se transforment tous les vendredis en petits précis philosophiques à l'usage des candidats. Vous la retrouverez donc aujourd'hui en fin d'émission pour donner quelques conseils à Jean-François Copé. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le mathématicien et philosophe Olivier Rey, qui enseigne la philosophie à l'Université Paris 1 et qui, après avoir publié Une question de taille en 2014, vient de faire paraître aux éditions Stock son dernier livre, Quand le nombre s'est fait nombre. Bonjour à vous, Olivier Rey.
Bonjour, Adèle Vendrette. Au commencement était le Verbe, il semble qu'à la fin, tout doive devenir nombre. Là où étaient les mots, les chiffres adviennent, ou les courbes, les cartes, les diagrammes qui en sont tirés. Lorsque ce qui était à même d'orienter dans la vie a été rongé par la critique, lorsque l'expérience individuelle n'est plus à la mesure de sociétés trop étendues, trop complexes et trop changeantes, les nombres deviennent les ultimes garants de la réalité, et non seulement calibrent le monde, mais colonisent jusqu'à l'intime. On parle de « quantified self ». La santé n'est plus ce que l'on ressent, mais ce dont des mesures attestent. Et lorsque le col blanc, pour compenser ce que son existence postée devant un écran a de trop sédentaire et d'antinaturel, va courir le soir ou le week-end, son rapport au monde est tellement médiatisé par des nombres que même en ce moment de détente où les facultés corporelles ataviques sont appelées à s'exprimer, il s'équipe d'un bracelet connecté interactif ou utilise une appli de son smartphone afin de comptabiliser le temps écoulé, les foulées, les battements cardiaques, évaluer les distances parcourues et l'énergie dépensée, dresser des diagrammes de performance, etc. Sans cela, il ne serait pas bien sûr d'avoir couru, les efforts fournis ne compteraient pas. Ce n'est pas à l'expérience personnelle, mais à la statistique que nous devons désormais nous confier pour savoir ce qu'il faut penser de la réalité. Ce faisant, la réalité a tendance à se résorber dans l'indicateur qui était censé renseigner sur elle, à n'être plus la source, mais le corollaire de la statistique. Nietzsche reprochait aux philosophies idéalistes et à la religion d'inventer des arrière-mondes dont l'ici-bas n'était plus qu'un reflet déformé et inconsistant. Aujourd'hui, c'est la statistique qui frappe ce monde-ci d'irréalité.
Au commencement était le Verbe, il semble qu'à la fin tout doive devenir nombre. C'est vous qui l'écrivez, Olivier, au début de votre ouvrage, hein, dont vous venez de lire un extrait. Alors, le constat que vous faites, hein, aujourd'hui, c'est la statistique qui frappe ce monde-ci d'irréalité à quelque chose d'un peu, disons, apocalyptique. Alors, c'est peut-être parce qu'on l'entend avec la musique de Philippe Glass derrière et votre voix solennelle qui, lisant ce texte, laisse penser que c'est vraiment un problème.
Je ne sais pas si c'est un problème, en tout cas c'est un constat que l'on peut faire. Et ce que j'ai essayé de réaliser dans mon travail, c'est de comprendre pour quelles raisons nous en étions là. Et ce qui m'apparaît justement, c'est que le règne de la statistique n'est pas quelque chose comme une météorite qui nous serait tombée dessus, mais que c'est son règne est quelque chose qui est profondément lié à notre manière aujourd'hui de faire société.
Oui, son règne, parce que vous vous demandez même ce qui fait que les chiffres ne sont plus aujourd'hui un simple outil pour appréhender la réalité, mais se sont substitués à cette réalité, et notamment la réalité sociale, dites-vous.
Oui, bien sûr, nous n'appréhendons notre être au monde à l'intérieur de la société qu'à travers, enfin en tout cas de manière très, très, très importante, à travers un certain nombre d'indicateurs statistiques, hein. Et pour juger, par exemple, de l'état du monde, les premières références qui viendront à l'esprit d'énormément de personnes, ce sera d'un certain nombre d'indicateurs statistiques, de croissance, de chômage, etc., qui passent toujours par des nombres qui ont été produits par des instituts spécialement voués à la production de données statistiques.
Comment est-ce qu'on définit la statistique ? Est-ce que c'est une branche des mathématiques ?
Alors, bon, ça a été vraiment quelque chose d'essentiel dans mon étude. C'était d'abord de me rendre compte et puis ensuite d'essayer d'expliquer que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le règne de la statistique n'est pas une projection sur le monde humain d'une démarche scientifique, parce que la statistique a commencé précisément dans le monde humain. Et d'ailleurs, quand on réfléchit au terme statistique, ça vient du latin status, état. Le développement de la statistique a été profondément lié au développement de l'État moderne. C'était l'idée qu'un État moderne, pour être bien gouverné, devait connaître dans le détail l'état des territoires et des populations sur lesquels qu'il devait administrer. Et donc, en fait, d'une certaine manière, la statistique a commencé par être un état de l'État, si vous voulez, à proposer aux gouvernants un état de l'État qu'ils devaient administrer. Et c'est comme ça que la statistique s'est véritablement développée. Et puis, en fait, elle a pris tellement d'importance au XIXe siècle dans la gestion des sociétés que, finalement, un certain nombre de scientifiques, dans la seconde moitié du XIXe siècle, se sont dit, mais ces méthodes qui font preuve d'une relative efficacité pour gérer les populations, finalement, est-ce qu'on pourrait pas les utiliser en science? Et c'est à ce moment-là que la statistique est entrée en physique, à travers l'étude des gaz où il y a énormément de particules, et puis étudier également les questions d'hérédité. Et puis, comme ça a pris de l'importance dans les sciences de la nature, au bout d'un moment, les mathématiciens se sont dit, bon, il faut quand même axiomatiser tout cela, rendre ça mathématiquement propre. Et donc, dans la première moitié du XXe siècle, la statistique est devenue une discipline mathématique. Et à partir du moment où elle est devenue une discipline mathématique, eh bien, on a pu faire le chemin en sens inverse, c'est-à-dire que la statistique dans les affaires humaines a pu être investie d'une nouvelle dignité du fait qu'elle avait cette onction scientifique. Mais ça n'est pas la science qui a engendré les mathématiques, c'est plutôt la statistique qui est d'abord née dans une certaine manière qu'ont eu les êtres humains d'organiser leur vie collective. Et c'est seulement dans un second temps que c'est devenu quelque chose de scientifisé.
Plus de 10% de la population active sont aujourd'hui privés d'emploi. 3 millions de demandeurs, 5 millions si nous prenons toutes les catégories. C'est un gâchis pour l'économie. Alors parlons franchement. Le chômage, qui progresse depuis 5 ans, va continuer, hélas, encore à progresser jusqu'à la fin de l'année. Je n'ai jamais caché cette réalité. Car quand il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de création suffisante d'emplois. Mais j'ai aussi affirmé un engagement, inverser durablement la courbe du chômage, pas un mois, pas deux mois, durablement la courbe du chômage à la fin de l'année.
Indépendamment de la question de savoir si une courbe peut réellement s'inverser, Olivier Rey, vous prenez cet exemple dans votre ouvrage pour illustrer le fait que les nombres ont tellement pris le dessus sur la réalité, se sont tellement substitués à la réalité, que lorsque le président de la République parle du chômage, il ne parle pas du chômage, mais de la courbe du chômage. L'expression est désormais consacrée.
Ben, c'est-à-dire que dans l'extrait qui vient d'être diffusé, c'est très intéressant parce qu'il commence par parler des chômeurs. Il dit il y a 3 millions de chômeurs ou 5 millions, je ne sais plus. Et puis ensuite, il y a un transfert qui s'opère, ça va être la courbe du chômage. Et en fait, les chômeurs disparaissent derrière la courbe qui rend compte du chômage. Et là, il y a une inversion puisqu'on va juger, c'est un très bon exemple, où on se met à juger de la réalité extrêmement concrète à partir d'un indicateur statistique.
Et pourtant, si la statistique a pour origine d'être, disons, un outil au service de l'État, il est fidèle à cette tradition-là, à l'origine même de la statistique.
Tout à fait, tout à fait. Et là, en fait, il ne faut pas prendre cela comme étant, si vous voulez, une application d'une démarche scientifique aux affaires humaines, puisque, encore une fois, comme j'ai essayé de le dire, c'est d'abord dans la gestion des affaires humaines que la statistique s'est développée.
Alors, où est le problème dans ce cas ?
Ah, je ne dis pas que forcément il y a un problème. Ce que je constate, si vous voulez, c'est que il est très facile, quand on parle avec tout un chacun, d'arriver très rapidement à un consensus comme quoi la statistique, c'est pas bien, justement, ça oublie la réalité, tous ces gens qui sont perdus dans leur nombre, qui oublient tout le monde concret derrière ces nombres. Et en fait, ce qui me semble un peu insuffisant dans ce genre de discours, c'est que on pourrait imaginer, si vous voulez, que nous vivrions dans le même monde que celui que nous connaissons, moins la statistique. Or, tout l'objet de mon travail, c'est de montrer que la statistique, elle est vraiment solidaire de la façon dont notre monde est organisé aujourd'hui. Alors, ce à quoi j'appelle, c'est une forme de conséquence, c'est-à-dire que critiquer la statistique sans s'en prendre, si vous voulez, aux conditions qui appelle son règne, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, si véritablement on n'est pas content de ce règne de la statistique, eh bien, il faut s'interroger sur la manière dont nous faisons société et peut-être songer à la changer.
C'est-à-dire que ce que vous constatez, c'est pas simplement que le nombre est indispensable pour comprendre notre réalité, pour vivre tout simplement de manière pragmatique, mais c'est que cette substitution du nombre à la réalité serait symptomatique de notre époque. C'est-à-dire qu'il y a eu un glissement quand même dans notre rapport au monde à travers le nombre.
Bah, notre époque, alors ça dépend ce qu'on appelle notre époque, on pourrait dire de ce que les historiens appellent l'époque contemporaine. Là, ça correspond extrêmement bien parce que quand on regarde historiquement les choses, on s'aperçoit que, bon, il y a des tentations statistiques qui naissent chez les gouvernants en Europe dès le XVIe siècle, mais que c'est véritablement dans la première moitié du XIXe siècle que la pratique statistique va vraiment exploser. On pourrait croire que c'est quelque chose de récent, en fait, non. C'est pas si récent que ça, c'est dans la première moitié du XIXe siècle, en particulier à partir des années 1820-1830. Donc le découpage que font les historiens en parlant d'époque contemporaine à partir de 1815, ou 1789 ou 1815 si on veut, en fait, là, ça recoupe très bien cet essor de la statistique. Et donc, en fait, on s'aperçoit que cet essor de la statistique, il est profondément lié à des transformations qui s'opèrent à cette époque-là.
Alors, on va écouter un texte de Ernst Engel, ne pas confondre avec Engels, hein, ce qui est écrit avec Marx, qui était directeur du bureau de statistique de Prusse de 1860 à 1882, qui exprime son idéal du contrôle de la population par la statistique. Écoutez, c'est Georges Claes qui lui prête sa voix.
La recherche statistique accompagne l'individu d'un bout à l'autre de son existence terrestre afin de dresser un tableau fidèle de sa vie. Elle prend acte de sa naissance, de son baptême, de sa vaccination, de sa scolarité et de ses résultats, de son zèle, de sa sortie de l'école, de son instruction et de son développement ultérieur. Et, une fois qu'il est devenu un homme, de sa constitution physique et de sa capacité à porter les armes. Elle continue de l'accompagner à travers la vie, enregistrant la profession qu'il a choisie, l'endroit où il établit son foyer et la façon dont il le gère, s'il épargne dans l'abondance de sa jeunesse pour ses vieux jours, si et quand et à quel âge il se marie et avec qui. Les statistiques s'occupent de lui quand le cours des choses lui est favorable ou quand il lui est défavorable. Sa vie devrait-elle être un naufrage? Devrait-il encourir une ruine matérielle, spirituelle ou morale? Les statistiques en prennent note de la même manière. Elle ne l'abandonne qu'à la mort, après que celle-ci a été rigoureusement constatée, ainsi que l'âge auquel elle est survenue et les causes qui l'ont entraînée. C'est seulement quand il est retourné à la terre que son dossier est clos, à moins que quelque chose de ce qu'il a accompli ne lui survive ou que son passif envers l'État ou la communauté ne soit pas soldé.
Contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, Olivier Rey, la recherche statistique dont parle ici Ernst Engel n'est pas liée à la volonté de comprendre une société, mais un individu.
Bah là, oui, enfin, c'est quelque chose qui... Ce Ernst Engel a été directeur du bureau de statistiques de l'État prussien. Et là, c'est quelque chose qu'il a écrit dans les années 1860. Là, d'abord, on voit très bien que la statistique, en l'occurrence, n'a, si vous voulez, rien de... n'a aucun lien avec ce qu'on pourrait appeler la science. En fait, là, c'est véritablement une volonté de contrôle de la part de l'État sur les individus. Alors, ce que pouvait regretter quelqu'un comme Engel à l'époque, c'était que toutes ces données à collecter, c'était quand même assez difficile. Et là, je pense qu'aujourd'hui, le réseau Internet, avec toutes les données que nous laissons chaque jour sur Internet, l'aurait plongé dans une forme d'extase, parce que vraiment maintenant, justement, avec les fichiers informatiques, ça ouvre de nouvelles possibilités. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les hommes du 19e siècle en rêvaient déjà. La seule chose, c'était que ils se heurtaient à des limites techniques que l'informatique et Internet aujourd'hui permet de lever. Était déjà là au 19e siècle.
Mais je rebondissais sur le terme d'individu, pas seulement parce que vous y consacrez un chapitre dans votre livre, mais c'est parce que la statistique étant une moyenne de chiffres, de nombres, on pourrait s'attendre à ce qu'elle serve à connaître un groupe d'individus et non pas un individu en particulier. Vous dites que justement la naissance, l'émergence de la statistique est vraiment liée à l'émergence de l'individu en tant que tel.
C'est-à-dire que vraiment j'ai été confronté à ce fait absolument massif, c'est l'explosion de la pratique statistique à partir de la première moitié du 19e siècle. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette explosion? Eh bien, il y a évidemment beaucoup de facteurs, mais ce qui m'a semblé absolument déterminant, c'est le fait que, à la fin du XVIIIe siècle, commence la révolution industrielle, dont le foyer est l'Angleterre, et puis, par ailleurs, se produit la grande révolution politique en France, mais qui va avoir des effets également sur toute l'Europe. Et si on combine les effets de ces deux grandes révolutions, qui, encore une fois, ont des foyers en Angleterre ou en France, mais qui concernent en réalité tout le continent européen, en fait, révolution industrielle et révolution politique vont avoir pour effet, pour dire, de démanteler toutes les anciennes structures d'anciens régimes, toutes les anciennes communautés, pour libérer l'individu. Et à ce moment-là, on va passer d'un nouveau régime de vie collective. C'est ce que Ferdinand Tönnies expliquera très bien dans son grand livre Gemeinschaft und Gesellschaft, Communauté et Société. Il voit la modernité comme le passage d'un mode de vie communautaire à un mode de vie social. Et en fait, dans la communauté, les individus existent, mais ils existent en tant que membres de la communauté, de leur famille, du village, de la paroisse, de la corporation, de l'ordre, etc. Dans le mode de vie social, c'est l'individu qui est le au départ, et la société, c'est un rassemblement d'individus. Alors on voit bien que quand on a affaire à des communautés, la statistique, elle se heurte partout à des frontières, si vous voulez, parce que il faut tenir compte de toutes les appartenances des différents individus. À partir du moment où on passe au mode de vie social, où l'élément fondamental est l'individu, évidemment, ça ouvre à la statistique un domaine où elle est parfaitement à l'aise, puisque finalement, cette conception de la société comme un rassemblement d'individus, c'est exactement ce que fait la statistique, où elle va appréhender chaque individu pour construire le tout social en additionnant les individus. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout de contradiction, si vous voulez, entre l'affirmation de l'individu et le règne de la statistique. C'est au contraire, la statistique trouve dans cette conception où l'élément fondamental est l'individu et la société n'est rien d'autre que le rassemblement des individus, son domaine d'élection.
Mais comment ça fonctionne vraiment la statistique du coup?
C'est-à-dire qu'en fait, on va collecter les données pour chaque individu, et puis on va dire que qu'est-ce que la réalité sociale? C'est l'addition de toutes ces données individuelles. Et donc en fait, Engel, lui, il n'est pas intéressé, si vous voulez, l'individu en tant que tel, lui, il n'en a rien à faire de la vie de chaque individu. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est un idéal d'administrateur. Mais en fait, comment administrer ce tout? Eh bien, simplement en additionnant les données de chacun.
Voilà, ce qui ne signifie pas qu'on connaît mieux chaque individu, mais que la décomposition de la communauté en autant d'individus qui forment donc une société permet cette addition d'un individu à un autre, puis à un autre, puis à un autre, et ensuite pour proposer une forme de moyenne.
Oui, oui, tout à fait. Alors, cela étant, au XIXe siècle, la statistique va avoir une importance absolument colossale, parce qu'à partir du moment où les anciennes communautés qui permettait de se repérer dans le monde, puisqu'on, si vous voulez, on n'était jamais directement dans le monde, on était dans le monde à l'intérieur de ces communautés d'appartenance. À partir du moment où ces communautés d'appartenance sont dissoutes ou du moins perdent énormément de leur importance, on se retrouve soit individu confronté à l'océan des autres individus. Et en fait, on va très vite se rendre compte que malgré tout, la société n'est pas quelque chose qui est comparable aux molécules d'eau dans la mer. Il y a quand même des structures qui apparaissent, mais comment ces structures vont apparaître? Elles ne sont plus a priori comme dans l'ancien monde, mais c'est quand même quelque chose sont des choses qui vont se constituer de manière immanente, et la statistique va être une façon de faire apparaître ces différences, mais qui se constituent de manière immanente. Par exemple, dans la société d'Ancien Régime, il y avait des ordres, l'aristocratie, le clergé, le tiers-état. Bon, ça disparaît. Mais en revanche, au XIXe siècle, va se constituer la notion de classe sociale. Mais la classe sociale, si vous voulez, ça n'est pas quelque chose qui vous est donné a priori. C'est quelque chose que, précisément, la statistique va beaucoup contribuer à donner consistance à la notion de classe sociale en établissant des échelles de revenus, en montrant que l'espérance de vie n'est pas la même quand on est ouvrier que quand on est bourgeois, etc.
Et c'est fiable. Pour le coup, faut-il contester l'application et l'utilisation de la statistique à l'échelle politique, notamment pour, comme vous le montrez dans votre livre, pour s'intéresser à la question du paupérisme, notamment?
Non, mais il est évident que des phénomènes de, si vous voulez, quand on a des grandes sociétés d'individus, la statistique est un outil qui est extrêmement adapté à la connaissance de ce qui se passe dans une grande société d'individus. C'est pour ça que je dis que les personnes qui critiquent aujourd'hui le règne de la statistique, si on est véritablement conséquent, il faut se dire que, en fait, à ce moment-là, il faut chercher un autre mode de vivre ensemble, pour reprendre l'expression qui est très utilisée aujourd'hui, que ces grandes sociétés d'individus.
Lisez tous les livres écrits en Angleterre sur le paupérisme. Étudiez les enquêtes ordonnées par le Parlement britannique. Parcourez les discussions qui ont eu lieu à la Chambre des Lords et à celle des communes sur cette difficile question. Une seule plainte retentira à vos oreilles. On déplore l'état de dégradation où sont tombées les classes inférieures de ce grand peuple. Le nombre des enfants naturels augmente sans cesse. Celui des criminels s'accroît rapidement. La population indigente se développe outre mesure. L'esprit de prévoyance et d'épargne se montre de plus en plus étranger aux pauvres. Tandis que dans le reste de la nation, les lumières se répandent, les mœurs s'adoucissent, les goûts deviennent plus délicats, les habitudes plus polies. Lui reste immobile, ou plutôt il rétrograde. On dirait qu'il recule vers la barbarie. Et placé au milieu des merveilles de la civilisation, il semble se rapprocher par ses idées et ses penchants de l'homme sauvage.
Répondez-moi clairement, dois-je comprendre que cet enfant a redemandé de la bouillie de gruau après avoir mangé la ration que lui octroie le règlement?
Oui, monsieur le directeur!
Mais ce garçon se fera pendre!
Approchez, garnement.
Eh bien, répondez, monsieur le directeur!
Et en quel honneur, monsieur Twist, je vous prie, avez-vous redemandé du gruau? Mais répondez!
C'est que j'avais faim, monsieur!
Mais vous êtes orphelin, monsieur Twist. Orphelin, savez-vous tout ce que ça signifie?
Non, monsieur.
Ce gamin est idiot par-dessus le marché. Cela signifie que vous n'avez ni père ni mère. Comprenez-vous? Eh bien, mais pourquoi pleurez-vous?
Je ne sais pas, monsieur.
Il n'est pas qu'idiot, il est absurde. Cela signifie que depuis votre naissance, vous avez été élevé, nourri aux frais de la paroisse. Comprenez-vous cela?
Oui, monsieur.
Vous représentez-vous à raison de 2 bouillies de gruau par jour, d'un oignon le jeudi...
Et d'un demi-petit pain le dimanche.
Et d'un demi-petit pain le dimanche. Merci de m'en faire souvenir, monsieur Bumble. Vous représentez-vous ce que vous avez retiré de la bouche à je ne sais combien de malheureux pendant ces 10 ans? Répondez!
Oui. Non, monsieur.
Il n'est pas qu'absurde, il est effronté.
C'est un rebelle, monsieur le directeur.
Imaginez-vous à quelle tâche plus importante de pareilles sommes aurait pu être consacrée.
Ah, pour ça, vous pensez comme moi, monsieur le Bonneau.
Moi qui n'arrive pas à remplacer mes deux boutons manquants. Par moi, ça n'a pas de quoi me les acheter.
Je ne vous le fais pas dire, monsieur le Bonneau. Monsieur Twist.
Mais monsieur.
Apprenez, monsieur Twist, que la paroisse, à date d'aujourd'hui, n'a plus l'intention de se saigner aux quatre veines pour un effronté et un rebelle.
Oui, monsieur.
En conséquence, elle décide de vous placer sans tarder en apprentissage. Est-ce simple?
Oui, monsieur.
Non, monsieur, ce n'est pas si simple.
Ce que cet extrait d'Oliver Twist donne à entendre Olivier Rey à la suite de l'extrait des Mémoires sur le paupérisme de Tocqueville, qui date de 1835, eh bien, c'est que l'explosion de la statistique va de pair avec l'apparition du paupérisme. Et celui-ci va contribuer à donner à la statistique une dimension non seulement politique, mais quasiment normative.
Oui, bah, je veux dire que le 19e siècle va être hanté par cette question terrible qui est la question sociale. Et la statistique va jouer un rôle très important dans l'étude et les essais de traitement de cette question sociale. En fait, le 18e siècle imaginait que, certes, il y avait de la misère au 18e siècle, mais le 18e siècle imaginait qu'avec le progrès des Lumières, avec des gouvernements représentatifs, l'abolition des privilèges, etc., en fait, tout cela aboutirait à une prospérité générale et que, donc, du coup, la misère se résorberait. Et puisque ce que le 19e siècle a donné, c'est finalement, effectivement, une très grande augmentation d'une richesse générale, mais en fait, cette augmentation de la richesse générale, profitant à une partie de la nation et précipitant une autre partie de la nation dans une condition absolument épouvantable, et où, en fait, dans le paupérisme, le gros problème auquel est confronté le 19e siècle avec ce paupérisme, c'est que c'est non seulement la misère, mais ça, finalement, la misère, on y était habitué, mais en plus, c'est une sorte de déchéance culturelle, c'est-à-dire que ce sont des populations qui vivaient certes pauvrement, mais à la campagne, et qui se retrouvent tout d'un coup concentrées dans de grands centres industriels. Et là, il y a aussi à la fois la misère et une forme de déchéance culturelle. C'est ce dont parle d'ailleurs Tocqueville. Et donc, en fait, là, si vous voulez, au XVIIIe siècle, on va avoir un très grand optimisme en se disant oui, il y a des problèmes, mais justement, ils vont se résoudre tout seuls avec, en appliquant le programme des Lumières. Et puis, le XIXe siècle, c'est que si on laisse ce programme s'accomplir tout seul, on se retrouve avec quelque chose de tout à fait inattendu, qui est cette immense masse des malheureux.
Et c'est le projet de Malthus, notamment, que vous citez, d'essayer d'utiliser la statistique pour essayer de comprendre d'où viennent les pauvres.
Ah bah alors après, il va y avoir énormément de réponses qui vont essayer d'être données à cette question sociale. Évidemment, il va y avoir l'idée de la révolution qui va se développer. Mais une des originalités de Malthus, qui va avoir un très très grand écho au cours du 19e siècle, mais ça c'est lui, il publie son essai sur la population, la première version paraît dès 1798, c'est l'idée que, qui va avoir beaucoup de succès, c'est en fait de naturaliser le problème, de le dépolitiser pour le naturaliser, en disant qu'en fait l'existence d'une très grande masse de pauvres n'est pas due à une mauvaise organisation politique, mais au fait qu'il y a trop de gens, voilà. C'est essentiellement cela. Il dit que si on laisse une population croître de manière naturelle, eh bien elle croît de manière exponentielle. Or, quoi qu'on fasse, aussi habile soit-on, aussi intelligent soit-on, aussi bien organisé soit-on, de toute façon, on ne peut pas faire croître les ressources de manière exponentielle. Donc forcément, si on ne limite pas l'expansion de la population, on va forcément arriver à un moment où, de toute façon, il y aura une immense masse de pauvres. Et donc c'est pour ça que Malthus dit que la solution au paupérisme, c'est que les pauvres arrêtent de faire des enfants. Voilà.
Ce qui n'est pas sans rappeler de manière ironique, et là donc on passe à un autre chapitre de votre livre sur la littérature face au nombre, les propos que Balzac tient notamment dans la physiologie du mariage, qui était de montrer que parfois les résultats logiques qui découlent d'une approche statistique du monde, eh bien peut-être pourrait être efficace, mais en même temps aussi prête à rire parce qu'il semble coupé de la réalité qu'on essaye de penser en question.
Là, dans l'extrait que vous avez passé de très très bon de Oliver Twist, en fait, Dickens dit sur le plan littéraire ce que Tocqueville disait d'un point de vue sociologique. Et le fait de dire à Oliver Twist qu'il vole sa nourriture et que toute la nourriture qu'on lui donne, elle est prise à d'autres, etc.
Ce qui statistiquement est vrai en plus.
Oui, mais en fait là, c'est vraiment Dickens, si vous voulez, qui détestait Malthus. En fait, là, c'est une critique en fait de l'aberration, des aberrations auxquelles on arrive en appréhendant des réalités humaines du point de vue malthusien. Où on en vient à reprocher à l'enfant le fait de manger.
En voici un autre exemple, Honoré de Balzac, donc dans La physiologie du mariage, ou Méditation de philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur conjugal, publié par un jeune célibataire, c'est le titre entier.
L'administration s'est occupée depuis 20 ans environ à chercher combien le sol de la France contient d'hectares de bois, de prés, de vignes, de jachères. Elle ne s'en est pas tenue là. Elle a voulu connaître le nombre et la nature des animaux. Les savants sont allés plus loin, ils ont compté les stères de bois, les kilogrammes de bœuf, les litres de vin, les pommes et les œufs consommés à Paris. Mais personne ne s'est encore avisé, soit au nom de l'honneur marital, soit dans l'intérêt des gens à marier, soit au profit de la morale et de la perfectibilité des institutions humaines, d'examiner le nombre des femmes honnêtes. Quoi ? Le ministère français interrogé pourra répondre qu'il a tant d'hommes sous les armes, tant d'espions, tant d'employés, tant d'écoliers. Et quant aux femmes vertueuses, néant. S'il prenait à un roi de France la fantaisie de chercher son auguste compagne parmi ses sujettes, l'administration ne pourrait même pas lui indiquer le gros de brebis blanche au sein duquel il aurait à choisir. Elle serait obligée d'en venir à quelque institution de rosière, ce qui apprêterait à rire. Les anciens seraient-ils donc nos maîtres en institutions politiques comme en morale ? Essayons de suppléer à ce silence de l'administration en établissant le décompte du sexe féminin en France. Ici, nous réclamons l'attention de tous les amis de la morale publique et nous les instituons juges de notre manière de procéder. Nous tâchons d'être assez généreux dans nos évaluations, assez exacts dans nos raisonnements, pour faire admettre par tout le monde le résultat de cette analyse.
Alors une chose est de tenter d'éradiquer le paupérisme, d'en comprendre les causes à l'aide des statistiques. Une autre est de tenter de les appliquer dans le domaine des mœurs et encore plus dans le domaine, disons, des genres avec ce texte de Balzac. On se demande comment, qu'il est quand même assez surprenant que personne ait tenté d'examiner le nombre des femmes honnêtes. Il retourne l'outil de la statistique contre lui-même, mais il ne tient pas pour autant une position qui consisterait à opposer d'un côté la littérature et de l'autre la science ou la statistique. Vous insistez bien sur ce point, Olivier Rey.
De toute façon, là, il ne caricature même pas, parce qu'il va y avoir un très grand succès à partir des années 1830-1840, des statistiques morales. Alors ça va être, évidemment, il faut avoir des données, donc ça va être les statistiques des crimes, mais on va faire aussi des statistiques de la prostitution par quartier, de la provenance des prostituées, etc. Enfin, il va y avoir une très grande avidité pour ce genre de statistiques. Et finalement, ce que propose Balzac, si vous voulez, évidemment, c'est des statistiques qui sont difficiles à établir, mais en fait, qui étaient tout à fait dans l'esprit du temps. Alors, en revanche, ce qui est très intéressant chez Balzac, c'est que là, évidemment, il en traite de manière assez ironique, mais en même temps, Balzac a été très, très sensible aux informations que la statistique pouvait donner. Il l'a énormément utilisé dans son œuvre. Et en fait, pour Balzac, les statistiques qui étaient publiées de son temps ont été un très grand stimulant, puisque finalement, comme je vous le disais, les structures d'Ancien Régime se sont défaites et qu'il y a eu l'avènement de cette nouvelle grande société d'individus, qui est le véritable sujet de la comédie humaine. D'ailleurs, Balzac écrit souvent « société » avec un grand S. Il voit que c'est le grand sujet au XIXe siècle. Et donc, en fait, la statistique va se développer pour essayer d'appréhender ce que c'est que la vie de ce grand sujet qu'est la société. Et Balzac est à la fois très intéressé par les données de la statistique et en même temps demeure insatisfait en disant que, en fait, la statistique laisse échapper à la fois le vécu des individus et d'autre part n'arrive pas à saisir l'organicité de la société, puisqu'elle ne fait que juxtaposer des données, elle n'arrive pas à saisir cette organicité de la société. Et la grande ambition de la comédie humaine, ça va être justement à la fois de combiner le vécu des individus, puisque dans chaque roman de la comédie humaine, on a affaire à des individus très particuliers, et en même temps, par tous ces livres qui constituent la comédie humaine avec les personnages récurrents d'un roman à l'autre, donner l'image de l'organicité. Mais donc, en fait, la comédie humaine est une réponse, en fait, à la statistique.
Oui, parce qu'il pose la même question de savoir comment rendre compte des mutations sociales à travers l'appréhension d'un caractère singulier.
Exactement. Et Balzac n'est pas contre la statistique, il est finalement dans le fait que dire que la statistique, c'est bien, mais c'est très insuffisant. Et donc, mais en même temps, il tient compte énormément de la statistique dans ses œuvres. Dans La physiologie du mariage, d'ailleurs, il fait référence à Benoîton de Châteauneuf dans des termes tout à fait élogieux, qui était un des statisticiens de l'époque.
Mais est-ce que peut-être que cette comparaison ou cette interrogation sur la statistique à travers le prisme de la littérature nous permet de poser comme question, c'est celle de la pertinence de cet outil dans certains domaines. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'elle est insuffisante, c'est que peut-être faut-il décider qu'il y a des domaines de l'existence humaine où la statistique n'a pas de prise ou est inutile, tout simplement. Les mœurs, à savoir tout ce qui est de l'ordre d'une forme d'intimité. Peut-on partir du principe que chaque individu est en mesure de dire clairement ce qu'il pense ou ce qu'il ressent de tel aspect de sa vie?
Non, mais bien sûr. Plus ça va aller, d'ailleurs, en fait, Balzac a une ambition absolument gigantesque qui est à la fois de rendre compte des existences individuelles dans ce qu'elles ont de purement individuel et donc, du coup, qui échappe forcément par nature à la statistique, mais d'autre part, par la comédie humaine, de rendre compte de la société dans laquelle vivent ces individus. Et ce qui va se passer, mais il faut vraiment quelqu'un comme Balzac qui va écrire presque une centaine de romans qui constituent la comédie humaine. Mais en fait, ce qui va se passer de plus en plus au cours du 19e siècle, c'est que finalement, les littérateurs vont petit à petit abandonner cette ambition gigantesque de rendre compte à la fois du niveau personnel et du niveau social, pour se concentrer de plus en plus sur le vécu des personnes. Et finalement, la littérature va de plus en plus devenir dépositaire de ce qui échappe à la statistique. Et donc, en fait, alors que chez Balzac, c'est d'une certaine manière dépasser la statistique, mais tout en l'englobant, alors que plus ça va aller, plus il va y avoir une forme de rivalité qui va s'instaurer, où en fait, la littérature devient encore une fois dépositaire de ce que les nombres ne peuvent pas dire.
C'est-à-dire, vous pensez à qui ?
Oh bah, si vous voulez, le romantisme, par exemple, toute cette veine romantique va être plutôt dans la mise à distance du nombre, vous voyez.
Au nombre vont se substituer les foules, par exemple, décrites par Baudelaire, notamment.
Bah, en fait, là, justement, ce qui, vous voulez, c'est ce que saisit Baudelaire et qu'on ne trouve pas dans la comédie humaine, c'est que, en fait, Balzac est sensible aux individus, il est sociable à la société dans son organicité, mais ce qu'on ne trouve pas chez Balzac, c'est ce sentiment de l'individu perdu dans la foule. Mais parce qu'en fait, Balzac, lui, il a un esprit tellement surplombant, si vous voulez, qu'il a toujours la sensation de dominer finalement les événements. Les personnes peuvent être perdues, mais lui, Balzac, il domine tout ça. Et ce dont vont rendre compte un certain nombre d'auteurs, en revanche, ce qui est quelque chose de fondamental dans l'existence moderne et contemporaine, et qui lui est tout à fait particulière, c'est l'individu perdu dans la foule. Et là, c'est pour ça que je compare ce qui se passe chez Balzac et puis le début de La Chartreuse de Parme, où Fabrice Del Dongo rejoint l'armée de Napoléon à Waterloo, et puis participe aux journées de Waterloo, il ne comprend absolument rien de ce qui se passe. Et là, véritablement, Stendhal saisit quelque chose d'absolument fondamental pour les individus contemporains qui sont perdus dans une foule et où les événements sont le produit d'une collectivité humaine qui ne sont plus du tout à la mesure des capacités de compréhension de l'individu.
Monsieur Max Bariou est le directeur général du service de sondage et statistique. Il en est beaucoup question en ce moment à la faveur de l'UNESCO. Ce service est fondé en France depuis quand, monsieur ?
Ah, mais tout d'abord, je me permettrai de faire une petite rectification. Nous ne sommes pas, à vrai dire, un service, mais un organisme. Il est vrai que nous nous appelons service de sondage et statistique, mais cela est dû au fait que nous avons été créés pendant la clandestinité, lorsque nous étions un organisme de résistance.
Et maintenant, l'UNESCO va se servir de votre organisation. En général, vous faites partie des sondages de l'opinion publique. Mais l'UNESCO, que cherche-t-il à savoir, lui ?
Ah, eh bien, voici de quoi il s'agit. L'UNESCO a décidé, lors de sa conférence générale de Mexico en novembre l'année dernière, de s'attaquer au grand problème des états de tension pouvant affecter la compréhension internationale. En d'autres termes, l'UNESCO engage les savants du monde entier à préciser comment et pourquoi des états de tension se produisent entre les peuples. Pourquoi faut-il que si souvent la paix du monde soit menacée? Et enfin, tout simplement, pourquoi ça ne va pas dans le monde?
Alors c'est peut-être avec ce genre de réponse, hein, on va essayer de savoir à l'aide de la statistique pourquoi ça ne va pas dans le monde. C'était la réponse de Max Bariou, le directeur général de l'organisme de sondage et statistique, en 1948 sur la radiodiffusion française. C'est donc peut-être avec ce genre de réponse qu'a été éveillée, initiée cette suspicion à l'égard des sondages. Les sondages sont une certaine application des statistiques.
Oui.
D'utilisation proprement politique. Et c'est aujourd'hui, et je vous parle aujourd'hui, au jour où a lieu cette émission, on a vu comment les sondages, une certaine utilisation des sondages n'a pas permis notamment de prédire l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Nous sommes en année d'élection électorale, donc les sondages sont extrêmement sollicités. Cette défiance à l'égard des sondages, à la fois trop plein de confiance suivi d'une grande défiance, illustre le scepticisme à l'égard des statistiques aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est spécifiquement contemporain?
Ben en fait, on est dans des rapports extrêmement ambigus vis-à-vis de la statistique, parce que d'un côté, on se plaint que la statistique... Alors, juste une toute petite parenthèse sur les sondages, sur les élections américaines. En fait, on dit les sondages se sont trompés, mais en fait, en réalité, par exemple, on voit que Hillary Clinton a eu un peu plus de voix que Donald Trump, et qu'en fait, on était dans la marge d'erreur. Enfin, je veux dire, les sondages peuvent avoir du mal, justement, si évidemment, si c'était à 60-40, les sondages ne se tromperaient pas. Là, avec le système américain ou avec les grands électeurs, etc. Enfin, les sondages, c'est pas facile parce qu'il faut les faire état par état.
Oui, mais donc on peut s'interroger sur la pertinence même des sondages dans ce cas-là.
Bah, c'est-à-dire que là, ce qui aurait été raisonnable de conclure des sondages, c'est qu'on pouvait pas prédire le résultat.
Oui, donc, a-t-on besoin des sondages pour affirmer?
Oui, mais en fait, vous voyez, l'ambiguïté, c'est qu'en réalité, on va critiquer les sondages parce que, ils n'ont pas pu prédire le résultat effectif. Mais en même temps, s'il y a eu autant de sondages, c'est parce que les journaux, ils font vendre avec les sondages. Ça veut dire aussi que ça répond à une certaine demande d'électeurs et du public. Et donc, là, on retrouve toute l'ambiguïté qu'il y a. C'est-à-dire qu'on va reprocher énormément à la statistique de donner une image très pauvre de la réalité, de pas saisir véritablement ce qui se passe, etc. Mais en même temps, on ne cesse d'être demandeur parce que nous-mêmes, nous vivons dans un monde auquel nous ne comprenons pas grand-chose. Avec notre expérience personnelle, nous comprenons pas le monde dans lequel nous vivons. Quand auparavant, les gens vivaient dans un village qui avait quelques centaines d'habitants, bon, bah la vie du village n'avait pas beaucoup de mystère pour eux. Tous les gens qu'ils rencontraient pendant la journée, c'était des gens qu'ils connaissaient, dont ils connaissaient les noms, etc. Aujourd'hui, si on vit dans une grande ville, l'essentiel des gens qu'on croisera dans la rue pendant la journée, ce seront des inconnus. Et à ce moment-là, le connu devient une exception à l'intérieur d'un océan d'un océan d'inconnus.
Sauf que c'est un leurre de penser que les nombres nous permettent de connaître
comment
le monde.
Ben non, mais ça nous permet un peu de nous situer. Par exemple, on va se poser la question, est-ce que je suis pauvre ou est-ce que je suis riche dans cette société? Ben en fait, si on n'avait pas la statistique pour nous dire quel est le salaire médian, quels sont les, etc., on n'en saurait rien, vous voyez?
Oui.
Bah oui, non, mais en fait, il y a toute une appétence pour la statistique, parce que précisément, comme on n'a plus de modèle de référence, en fait, tous les modèles, et qu'on a malgré tout besoin de se situer par rapport aux autres, parce que ça, humainement, on a toujours besoin de se situer par rapport aux autres. En fait, la statistique, aussi réductrice soit-elle, elle nous donne quand même certains éléments de comparaison. Et donc, en fait, il y a à la fois une répulsion pour la statistique qui est par nature aveugle à un certain ordre de réalité, mais en même temps une demande permanente de statistiques. On va reprocher aussi aux hommes politiques de citer tout le temps des données statistiques et d'oublier la réalité, mais imaginez un homme politique qui ignorerait tout des données statistiques, en fait on le prendrait pas au sérieux non plus. Donc il y a même des gens qui ont dit que la statistique était absolument essentielle à l'exercice de la démocratie, parce qu'un électeur ne peut pas se prononcer en connaissance de cause s'il n'y a pas d'informations statistique.
Si l'on parie, si l'on mise sur le fait que chaque électeur se prononce de manière rationnelle, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cas des élections.
Ça, évidemment.
C'est un autre sujet. Un grand merci à vous, Olivier Rey, d'être venu nous parler de votre livre « Quand le monde s'est fait nombre » aux éditions Stock.
Merci à vous.
Number nine, 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 number nine.
Et comme tous les vendredis sur les nouveaux chemins de la connaissance, on retrouve Géraldine Mosna-Savoie pour son petit précis philosophique à l'usage des candidats. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
À qui avez-vous choisi de donner votre conseil cette semaine ?
Eh bien comme vous le savez Adèle, ce dimanche, le 20 novembre, aura lieu enfin le premier tour de la primaire de la droite et du centre. La pression monte, le suspense est à son comble. Enfin, plus pour certains que pour d'autres, c'est donc l'occasion ou jamais de donner un conseil à Jean-François Copé qui y participe.
J'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après...
Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais pas me présenter du tout.
La politique est une chose sérieuse, elle traite de sujets graves et elle doit agir face à des situations dramatiques. Et pourtant, force est de reconnaître que la politique, toute dramatique qu'elle soit, a parfois tout d'un vaudeville.
Je voudrais quand même rappeler un petit fait. Quand j'ai vu un certain nombre de nos amis, proches de Nicolas Sarkozy en ce moment, faire une conférence de presse hier pour hurler contre François Bayrou, avec à sa tête, c'est pour ça que ce lapsus à répétition entre Baroin et Bayrou, ça me fait un peu sourire, je voudrais quand même rappeler que François Baroin...
Ah, vous aussi, voilà.
Allez,
il n'y avait pas de raison que je ne sois pas dans le club.
D'accord. Ça s'appelle l'arroseur arrosé.
Oui, attends la fin de l'histoire, tu vas voir que l'arrosage va dans l'autre sens.
Mais qu'est-ce qu'on a bien ri lors du deuxième débat à la primaire de la droite et du centre le 3 novembre dernier. Chacun y est allé de son lapsus entre François Baroin et François Bayrou, y compris bien sûr Jean-François Copé, l'arroseur arrosé. Dommage pour lui d'ailleurs, alors qu'il a voulu pousser ses camarades à rire d'eux-mêmes, c'est en fait de lui qu'ils ont ri. Et il s'est ainsi fait la parfaite illustration de ce que dit Bergson dans son essai sur le comique, le rire. Je cite « Un mot est spirituel quand il nous fait rire d'un tiers ou rire de nous, mais il devient comique quand il nous fait rire de celui qui le prononce. » Dommage donc pour Jean-François Copé, il a tenté d'être spirituel, mais il a finalement été comique, et pas qu'une seule fois.
J'assume qu'il faut un gouvernement de choc, avec des ministres de gauche, des ministres de droite et des ministres centristes, et surtout pas
un ministre de gauche.
Je dois dire que c'est un lapsus touchant.
Un gouvernement de droite avec des ministres de gauche, le mot a de quoi faire sourire et même rire, entendre Nathalie Kosciusko-Morizet ou Nicolas Sarkozy qui saisit l'occasion pour en rajouter une couche et parler d'un lapsus révélateur. Et il n'a peut-être pas tort, mais révélateur de quoi ? De la personnalité comique de Jean-François Copé qui suscite la moquerie ou de la comédie que peut être la politique elle-même et qui nous fait rire jaune ? Ou pire, des deux, qui provoquent notre rire parce que, comme le dit Bergson, il n'y a plus ici de mots d'esprit tout court d'ailleurs, d'idées, de conscience ou de volonté chez nos politiques, mais juste du comique.
Je veux être le président de la décision contre le président de l'impuissance.
et je veux être le président qui ramène de l'autorité dans notre pays qui en a tant besoin.
Jean-François Copé, vous souriez beaucoup. Au fond, vous êtes là pour quoi ? Pour régler des comptes personnels ?
Oh non, certainement pas. J'ai des divergences de fond qui sont, je crois, connues.
Le sourire de Jean-François Copé face aux grandes phrases de son ancien chef Nicolas Sarkozy nous fait sourire aussi. Il révèle en fait qu'il n'est pas le seul comique sur scène, mais que tout ce qui se joue sous nos yeux ressemble à une farce. Mais le révèle-t-il cette fois-ci malgré lui ? Car si Bergson souligne que l'on rit de celui qui parle et dont l'action n'a rien de voulu et conscient, mais tout du geste qui échappe, du geste automatique, sans but, sans profit et par le seul effet d'une espèce de démangeaison intérieure, jusqu'où un tel sourire n'est-il quant à lui pas voulu ? Et si Jean-François Copé n'assumait pas en fait son côté comique pour dédramatiser et révéler toute cette comédie politique ? Et s'il réussissait finalement à renverser l'arrosage ?
Je crois qu'au-delà des débats passionnants que nous avons eus, il faut proposer une vision. Et moi je pense que cette vision, elle tient en un mot, bâtir une France décomplexée. Et si je parle de droite décomplexée, c'est bien pour bâtir cette France décomplexée. Qu'est-ce que c'est une France décomplexée ? C'est une France où on a le droit de parler de tout. Sans tabou, sans drame, sans avoir peur de la gauche caviar.
Si Jean-François Copé a comme thème de campagne le terme décomplexé, Bergson, quant à lui, utilise le terme de distrait. Le distrait, celui dont le geste est involontaire, et le mot inconscient, celui qui nous fait rire parce qu'il se distrait des conventions sociales et agit par automatisme. Celui à qui Jean-François Copé donne donc le droit de s'assumer en assumant lui-même sa distraction. Reste que le distrait, tout comme le décomplexé, sont du coup insociables et leurs spectateurs insensibles. De quoi effectivement faire rire par sa chute, mais là, en politique.
Donc votre conseil à Jean-François Copé, c'est de lire Le Rire de Bergson ?
Eh ben non, justement, bon c'est pas très drôle Le Rire de Bergson justement, mais plutôt en fait de penser à la stratégie pour la prochaine fois, d'en changer et de miser sur le drame cette fois-ci qui touche plus facilement et qui signifie étymologiquement le fait de jouer. Au moins, il alliera amour du jeu et ambition politique.
Merci beaucoup Géraldine, que Jean-François Copé vous entende et merci à tous. Les Nouveaux Chemins touchent à leur fin pour cette semaine. J'en profite pour remercier l'équipe des Nouveaux Chemins, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Pierre Brossard, Ariane Mintz, Géraldine Mosna-Savoie que vous venez d'entendre, que vous pouvez réécouter en ligne sur le site des Nouveaux Chemins, téléchargé évidemment, qui a préparé cette émission avec Olivier Rey. Olivier Bétard à la réalisation cette semaine, Philippe Mercher à la prise de son, Stéphane Poitvin à la prise de son également. La semaine prochaine, on se retrouve pour une série consacrée au pré-socratique, la pensée avant Socrate. Mais oui, elle existait. Il sera question de Parménide, d'Anaxagore, d'Héraclite, d'Empédocle et d'autres encore sans doute. Rendez-vous d'ici là et en attendant ce week-end. Vous pouvez télécharger les émissions pour les réécouter, mais aussi vous rendre sur nos comptes Facebook et Twitter où nous mettons en ligne les émissions du jour et puis aussi on attend vos remarques et commentaires pour communiquer avec vous, comme dirait Jean-Luc Nancy. Sur France Culture, à 11h, vous retrouverez Florian Delorme pour Culture Monde. Mais tout de suite, il est l'heure de votre feuilleton quotidien, La vie moderne 2014-18, par Amandine Casadamon.